France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, puisque vous écoutez France Musique, vous savez que le compositeur argentin Astor Piazzolla est né voici 100 ans, le 11 mars, très précisément. L'antenne avait d'ailleurs célébré l'événement du 11 au 14 mars avec une série d'émissions que vous pouvez réécouter avec l'application Radio France ou en vous rendant sur le site francemusique.fr. Un livre important accompagne également ce centenaire signé de deux musiciens passionnés par la musique de Piazzolla, Sébastien Hautemaillou, bandéoniste, et Marielle Gard, pianiste, qui constitue le duo Intermezzo. J'ai le plaisir de recevoir Sébastien Hautemaillou qui va nous raconter comment ils ont mené à bien cette publication de quelques 500 pages. Astor Piazzolla, Libertad, l'étonnant voyage, un homme libre, de Sébastien Hautemaillou et Marielle Gard aux éditions Parole. C'était en mai 1970 au Théâtre Regina de Buenos Aires, Astor Piazzolla et son quintet, un extrait des quatre saisons d'Astor Piazzolla. Bonjour Sébastien Hautemaillou.
Bonjour Philippe.
Vous êtes donc l'auteur avec Marielle Gard aux éditions Parole, pour les éditions Parole, de ce livre, cette grosse biographie, quelques 500 pages, je l'ai dit, consacrée à Astor Piazzolla. Donc je l'ai dit en introduction, une musique évidemment qui vous est chère, c'est la raison pour laquelle vous avez consacré, j'imagine, beaucoup de temps, de travail, à faire beaucoup de recherches pour mener à bien ce travail, cette biographie qui est présentée de façon chronologique et très documentée. Il y a beaucoup d'illustrations, de photos. On suit le musicien année après année. C'est accompagné également d'un disque d'une heure et quart de musique que vous avez enregistré tous les deux. Vous présentez également les instruments. Il y a à la fois un côté très précis, très accessible, très pédagogique dans ce travail. C'est ce que vous vouliez accomplir, j'imagine, Sébastien Hautemaillou.
Tout à fait, mais je suis content de vos commentaires qui nous touchent, puisque du coup c'est exactement ce que nous souhaitions faire. Cette année, comme vous l'avez rappelé, est forcément une date très importante dans la vie de la musique et dans l'œuvre de Piazzolla, puisqu'on fête les 100 ans de sa naissance, on fête aussi les 15 ans de notre duo avec Marie Helga, pianiste, voilà, duo intermezzo, donc c'est pour ça qu'aussi on a tenu à proposer un projet, une version personnelle pour célébrer ce grand homme, cet immense compositeur que l'on considère comme l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Ce qui nous a paru essentiel, en fait, c'était de proposer quelque chose qui permettait de mieux connaître sa vie, de mieux connaître l'homme aussi, et tout en proposant aussi une sorte de biographie musicale qui est proposée par le CD. Ce n'est pas une playlist d'extraits qui ont été glanés à droite à gauche, c'est vraiment des arrangements que nous avons spécialement créés pour ce projet-là. Et le but était effectivement d'avoir plusieurs niveaux de lecture dans ce livre Libertad. C'est-à-dire, on peut, comme vous l'avez rappelé, bien sûr, lire le livre dans l'ordre, mais aussi dans le désordre, puisque nous avons avancé chapitre par chapitre, année après année. On peut bien sûr aussi écouter le disque seul, donc 1 heure et quart de musique qui couvre 40 ans
de création,
voilà, de 1944 à 1984. On peut aussi, tout à fait, c'était l'idée de départ aussi, lire les chapitres en écoutant la piste correspondante, puisque chaque chapitre correspond à une piste du disque. Et puis on peut aussi s'asseoir confortablement dans son fauteuil et vivre une expérience un petit peu immersive comme on pourrait l'avoir dans un concert, avec des feuillets rouges qui constituent un chapitre que l'on a appelé clé d'écoute. Et ces clés d'écoute donnent des éléments sur l'interprétation, sur la composition, des petites recettes de cuisine de Piazzolla, en quelque sorte, et que l'on peut du coup apprécier en écoutant les compositions et surtout du coup mieux comprendre ce qu'il a voulu dire.
Intermezzo, Sébastien Hautemaillot au bandoneon et Marielle Gare au piano, interprété Michelangelo 70 d'Astor Piazzolla. Sébastien Hautemaillot, ce n'est pas un extrait du disque qui est joint au livre, hein, je le précise, mais un enregistrement que vous aviez effectué il y a peu de temps pour le label Indécence. Dites-nous, Sébastien Hautemaillot, quand on s'embarque dans une telle aventure, dans une telle entreprise, on a un but qui n'est pas seulement raconter la vie de Piazzolla. Qu'est-ce que vous vouliez pas peut-être prouver ou rappeler à vos potentiels lecteurs? Est-ce qu'il y a eu d'abord des difficultés à accéder aux sources? Est-ce qu'il a fallu un gros travail pour les collecter, pour les rassembler, pour les identifier?
Alors, pour collecter les sources, nous avons eu la chance d'être en lien avec plusieurs personnalités en Argentine, notamment le compositeur Saúl Cosentino, qui écrit de la très très belle musique aussi dans la veine du tango nuevo, qui était ami de Piazzolla, donc avec lequel on a pu échanger depuis plusieurs années.
D'accord.
Il nous a fourni des sources, des photos, des manuscrits de partitions. On est également en lien avec la Fondation Piazzolla de Buenos Aires, avec la famille, et puis aussi avec les archives Buesmi qui recensent des photos qui, pour la plupart aussi d'entre elles, proviennent de la famille Ponce, qui est une famille qui vit, Jacqueline Ponce vit toujours à Paris. C'était des gens qui étaient hôtes de Piazzolla et amis depuis les années 70, qui l'ont hébergé à de nombreuses reprises et qui menaient une vie vraiment intense au niveau artistique avec tous les artistes argentins. Donc tout cela mis bout à bout a permis de regrouper pas mal d'éléments.
Donc après, vous avez eu accès à des documents de première main, en fait?
Tout à fait, oui.
D'accord.
Nous avons pu rassembler ces documents. Et puis l'idée, c'était aussi de répondre aux questions que l'on nous pose parfois en concert sur sa vie, sur les morceaux. On trouve très fréquemment des gens qui nous disent « on vient de découvrir ce compositeur et sa musique », ce qui nous paraît, nous, très difficile à entendre. Mais l'œuvre de Piazzolla, bien qu'elle soit aujourd'hui mondialement connue, n'est pas peut-être connu à sa juste valeur.
D'accord.
En tous les cas, on ne connaît pas bien l'acharnement, le travail, la ténacité, le courage qu'il a mis en œuvre pour imposer sa musique au monde. C'était ce que l'on voulait montrer. La difficulté était ensuite, effectivement, de compiler toutes ces données dans un livre qui ne se veut pas un traité musicologique, en fait, hein, c'est vraiment accessible.
Ah oui, tout à fait.
C'est ce qu'on a voulu au plus grand nombre, que ce soit à des passionnés de musique, à des passionnés de Piazzolla ou simplement de littérature, puisqu'on a eu beaucoup d'échanges et un très gros travail avec les éditions Parole qui nous ont vraiment bien soutenus magnifiquement dans cette aventure pour trouver un fil narratif dans l'écriture qui soit vraiment immersif et qui permette de jongler entre la musique et sa vie, parce que la plupart des livres qui existent sur Piazzolla sont en espagnol et la totalité des livres qui existent dans le monde entier, on peut dire, sont des livres de biographie sans annexes musicales. Et nous, il nous paraissait vraiment très important de ne pas dissocier la vie du compositeur de son œuvre, puisque ils sont, l'œuvre et la vie de tout compositeur
sont intimement liés.
Tout à fait.
Alors, donc, on n'aura évidemment pas le temps de résumer, ce n'est pas l'objet non plus de cet entretien, la vie d'Astor Piazzolla. Peut-être, Sébastien Hautemaillot, quand même, un ou deux éléments qui vous paraissent essentiels dans son parcours. Donc, on l'a dit, né en 1921 en Argentine. En 1954, il vient à Paris pour travailler auprès de Nadia Boulanger. Est-ce que c'est un moment, ce séjour parisien de 3 ans, je crois, qui aura un écho fondamental sur l'évolution de son parcours artistique?
Tout à fait, c'est le déclencheur. C'est l'un des déclencheurs. Je pense qu'au tout début, dans sa petite enfance, il y a eu le Carlos Gardel.
Ouais.
Ensuite, il y a eu ses études avec Ginastera, avec lequel il a appris vraiment la composition classique, puisqu'il voulait vraiment laisser son bandoneon au placard. C'est dans cet esprit-là qu'il est arrivé à Paris chez Nadia Boulanger, avec tout un tas de partitions dans lesquelles ne figurait absolument pas le bandoneon, dans des styles vraiment très très variés. et dans lequel on peut reconnaître des influences de Debussy, Ravel. D'ailleurs, Marielle a enregistré la suite pour piano opus 2 dans le disque qui est joué au livre. Donc, c'est une pièce qui date de 1944 et qui montre un Piazzolla très influencé par les Debussy, Ravel. Et donc, il arrive dans cet esprit chez Nadia Boulanger qui lui dit c'est fort bien écrit, mais du coup, je ne reconnais pas forcément une identité artistique de Piazzolla dedans. Lui, forcément, n'avait pas voulu lui avouer qu'il jouait du tango, qu'il avait un passé dans les clubs de Buenos Aires, et surtout qu'il jouait du bandoneon. Bon, sans doute par la ténacité de Nadia Boulanger, il a dû avouer à un moment ou à un autre. Et du coup, il a fini par lui jouer, non pas au bandoneon, mais au piano, son tango triomphal. Et suite à quoi, elle lui a dit, bon, ben voilà, là, c'est
le sillon qu'il faut creuser, c'est ça ?
Tout à fait. Ouais. Faites-le à l'image de ce qu'ont pu faire Villa-Lobos, Bartók. Et elle lui a dit une chose vraiment, vous possédez quelque chose qui vous permet de faire ça, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que c'est vraiment, il avait en lui ce génie, bien qu'il lui-même n'aimait pas qu'on le qualifie de génie, mais il avait cette intuition et cette capacité en fait de réconcilier ou d'unir l'ancien tango avec quelque chose qui l'emmènerait ailleurs, et c'est ce qu'il a fort bien réussi. Et grâce à Nadia Boulanger, il a pu du coup prendre confiance et développer son propre répertoire.
Sébastien Hautemaillou, qu'est-ce que Piazzolla a conservé de l'ancien tango pour l'amener vers une nouvelle, pour lui donner une nouvelle orientation? En quelques mots, sans rentrer évidemment dans des considérations techniques, bien évidemment.
Ben, en fait, il y a une citation d'un écrivain argentin, Ernesto Sabato, qui dit « La musique de Piazzolla a les yeux, le nez et la bouche de son grand-père, le tango, le reste est de Piazzolla ». Ça résume assez bien, je trouve, l'esprit de sa musique, c'est-à-dire, en fait, c'est du tango, c'est de la musique de Buenos Aires. Il y a des influences harmoniques, il y a des influences rythmiques. On retrouve ce qu'on appelle le tresillo cubano, c'est l'ancêtre de ce qu'on pourrait appeler 3-3-2 dans la musique de Piazzolla, 3 croches, 3 croches, 2 croches, qui proviennent de la banera cubaine. Donc ça reste dans sa musique, ça reste dans beaucoup de musique latine. Et donc on retrouve ça, on retrouve une ambiance, on retrouve aussi ce qui peut être qualifié comme une dualité du tango, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui peut être très énergique, de la rage, et d'autre part de quelque chose très intérieur, très mélancolique. Donc Piazzolla construit son discours aussi là-dessus et l'emmène donc après vers d'autres univers harmoniques, rythmiques. Il introduit des mesures plus complexes, et donc on arrive à un discours qui est complètement perceptible et identifiable comme étant le style Piazzolla.
Delphine Gardin, l'ensemble Musique Nouvelle, c'était un extrait de Maria de Buenos Aires d'Astor Piazzolla. Sébastien Hautemaillou, une question à propos de l'œuvre qu'on vient d'entendre. Comment est-ce qu'il faut la définir ? C'est quoi ? C'est un opéra ? C'est une comédie musicale ? Comment est-ce qu'il faut la qualifier ?
C'est très inspiré de la comédie musicale de Bernstein, puisque Piazzolla a vécu son enfance, la plus grande partie de son enfance à New York. Il écoutait Gershwin, il allait dans les clubs de jazz, etc. Donc il y a ce côté-là. Lui, il le qualifie d'operita, donc petit opéra tango. En tous les cas, ce qu'il a dit, pour lui, c'était une œuvre majeur en tant que compositeur, il la considère comme ça en tous les cas, et même si au niveau financier ça a été un désastre, puisque lors des premières séances en Argentine en tout cas, on ne comprenait pas ce qu'il voulait faire, et ça datait déjà cette lutte entre Piazzolla et les Argentins, déjà était antérieure, a duré bien des années, jusqu'à quasiment en 1983 où il a été vraiment admiré pour son concert au Théâtre Colonne. Et donc il a dit lui-même, je préfère être fauché mais avoir écrit Maria de Buenos Aires plutôt que l'inverse.
D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que l'extrait qu'on vient d'entendre, interprété par cet ensemble Musique Nouvelle, qui était un ensemble spécialisé dans la musique contemporaine.
Oui, c'est en fait, je pense que le principe de la musique de Piazzolla, c'est qu'elle est très flexible. C'est d'ailleurs ce que dit son petit-fils Daniel Pippi Piazzolla, qui est batteur de jazz et leader du groupe Escalandrum. Lui travaille dans le côté plus jazz. Toujours est-il dans la version que l'on vient d'entendre et dans de ce que je peux Daniel Pippi Piazzolla, il y a un profond respect en fait de l'essence même de l'œuvre, même si on peut aller vers d'autres univers comme là des ensembles de musique contemporaine ou du jazz. C'est une musique qui finalement, à l'image de celle de Bach aussi, peut avoir tout un tas d'adaptations, de transcriptions, de relectures qui sont tout aussi pertinentes les unes que les autres, dans la mesure où il y a vraiment comme point central ce respect de l'essence même de l'œuvre.
Dans les années 50, à l'époque où Astor Piazzolla était à Paris, c'était Astor Piazzolla dans une de ses compositions avec l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris. Sébastien Hautemaillou, un autre exemple de la musique de Piazzolla qui traverse les genres et les frontières, on a envie de dire.
Oui, tout à fait. Cette période-là était la période dans laquelle il était à Paris, Ignatia Boulanger. Donc cet orchestre-là que l'on vient d'entendre était dirigé par Lalo Schifrin, avec lequel Piazzolla a vraiment été très proche était très ami. Mais ils ont enregistré d'ailleurs tous les deux son concerto pour bandoneon quelques années plus tard. Cet enregistrement après a su. Lorsque Piazzolla est rentré en Argentine, a créé son octeto de Buenos Aires et qui a été vraiment une dynamite dans l'histoire de sa musique et même dans la musique argentine, puisque c'était vraiment d'un niveau exceptionnel et puis d'une révolution stylistique incroyable. On a pu pour ce projet Libertad se procurer les enregistrements vinyles de l'époque et vraiment c'est une révolution harmonique, rythmique, voilà, et cette musique en fait touche tout le monde, qu'on soit plutôt lié à la musique classique, plutôt lié au jazz, aux musiques du monde, à la musique contemporaine. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que elle a quelque chose de fort que l'on peut attribuer à vraiment des très très grands compositeurs à l'image de Mozart, de Bach, de Beethoven, qui ont vraiment un style identifié. Et là, elle nous touche vraiment très très profondément.
On comprend effectivement et on partage votre passion pour la musique d'Astor Piazzolla, Sébastien Hautemaillou. Je rappelle le titre du livre que vous avez écrit à quatre mains, donc avec Marie Elgar. Astor Piazzolla, Libertad, l'étonne en voyage d'un homme libre qui vient de paraître aux éditions Parole. La semaine prochaine, je serai en compagnie d'Hélène Cao et nous ferons le tour de la musique en 600 mots. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Fabien Capel, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.